Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement.
Bonjour les oreilles, j'espère que vous allez bien. Vous savez que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est vendredi. Et que le vendredi, ça veut dire que parfois, on est en week-end. Pour ceux qui ont la chance de travailler encore depuis chez eux. Pour les autres, c'est cool, parce que du coup, le samedi, ça évoque le fait que on va se sortir de ce confinement. On a un jour de moins à faire, hein, voilà. Il faut voir toujours le verre à moitié plein. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc, comme tous les jours, à 14h pour une nouvelle lecture d'Oasis d'Interdite d'Ella Maillard. Hier, ils avaient pris congé d'Assa Khan. Et ils continuent leur périple vers les gorges de l'Altintag. Grâce aux ânes qu'on a chargés de notre équipement, la perle peut être délestée et reprendre la route, en sorte que sa plaie cicatrisera plus vite. Tussun, notre guide, est charmant, avec ses dents blanches qui étincellent dans sa barbe noire et son rire qui cascade comme celui d'un enfant. Il est accompagné d'un bonhomme dont la bouche est toute ridée à force d'émettre de sonores sons, crr-crr, pour faire avancer les baudets indisciplinés. Moi-même, je chevauche un âne qui n'est guère plaisant, car il boite et s'arrête sans cesse. Aussi, je vante les mérites d'une équitation asine à Peter, jusqu'à ce qu'il me cède sa monture avec sa bonne grâce habituelle. Pendant 2 jours, nous descendons la vallée du Tchertchendaria, dont les eaux grises et tumultueuses m'assourdissent. Quelle eau, quelle herbe! 3 jours auparavant, l'image d'une pareille abondance m'eût semblé d'un autre monde. Mais pour traverser la chaîne de l'Altintag, le fleuve s'engouffre dans un défilé impraticable, et le 3e jour, nous devons gravir successivement 2 cols dans des montagnes abruptes et pelées. Depuis 2 jours, le brouillard enveloppe les sommets, et tout à coup, la pluie se met à tomber avec régularité. Sur la valise de Peter, secouée par le trottinement de son âne, les étiquettes de l'hôtel Aldon et du Lido se décomposent sous la première averse tombée depuis Pékin. Dans des ravins abrités au flanc des escarpements, mes yeux enchantés découvrent des fleurs. De petites iris en quantité, puis des trolls odorants aux boules d'or dont la perle est très friande. Quel régal pour la pauvre bête après son régime de coriace bouturga, ainsi que de minuscules rosacées rampantes qui forment, en matelas compact, de grandes plaques vertes. Une jeune mère, leste et décidée, s'est jointe à notre caravane peu après le départ de Bac Malgan. Son bébé pleure souvent la nuit ou vomit. Bref, fait tout ce que font ces chères petites choses, comme dit Peter, quelque peu agacées. Mon compagnon va jusqu'à prédire toutes sortes de contretemps. Il n'aime pas les femmes, qu'il faut toujours aider, dit-il. Tout se complique dès qu'elles apparaissent, et il craint que celles-ci ne tournent nos hommes contre nous. Pourtant, en voyant ce petit enfant ficelé sur cet âne qui le secoue, Peter finit par remarquer. Pauvre gosse, il n'a pas la vie drôle. Quant à moi, je réserve plutôt ma compassion pour la mère. Arrivé à l'étape au fond d'un étroit ravin, le lait que j'ai emporté dans une bouteille est devenu un dur morceau de beurre. Et nous ferons notre thé avec l'autre saumâtre que distille une grotte sombre. Le 4e jour, pendant toute la matinée, nous dégringolons le ravin qui se transforme en une gorge impressionnante, large de 15 mètres à peine. Nous descendons encore, à croire que nous ne nous arrêterons que dans les entrailles de la terre. Les tchoukas nombreux croisent dans les failles des gigantesques parois de pierre où joue l'écho. À midi, nous débouchons en plein soleil dans un désert de gravier étalé au pied de la montagne. Nous sommes au bord de l'immense Takla Makan, la mer de sable qui, sur plus de 800 kilomètres, forme le Turkestan oriental. Une petite source, Mounaboulak, nous permet de faire le plein d'eau à l'ombre de tamaris, tout épanoui et vaporeux. Les fleurs sont des gerbes de fusées roses qui viennent d'éclater. Dans ce désert absolu, la chaleur nous accable autant que la différence d'altitude. C'est la mi-juin, nous ne sommes plus qu'à 1200 mètres et une halte s'impose. Reparti à 6 heures du soir, nous suivons bientôt la piste à la clarté des étoiles. Il faut aller à pied pour épargner les bêtes. Fatigue intense. Une fois encore, il ne s'agit plus que de durer, de tuer une heure et puis encore une. Peu après minuit, nous nous couchons sur la terre, réconfortés quelque peu par un quart d'eau saumâtre coupé de cognac. Le cinquième jour, à 4 heures du matin, ayant à peine dormi, nous nous remettons en route. Et un mugissement continu surprend mes oreilles. C'est sans doute le grand vent du désert qui arrive, et par-delà cette lointaine colline de gravier, fait s'écrouler les dunes. Mais non, c'est l'eau qui court en roulant des galets, c'est notre fleuve retrouvé, et nous y parvenons altérés, non sans savoir dû tailler des marches pour nos chameaux dans le sable croulant des dunes abruptes. Pendant la halte de midi, je me bien avec délice et il faut que je vienne toute fraîche encore de ce plongeon glacé pour décider Peter, écrasé par la chaleur et par l'absorption de deux bouilloires de thé, à emporter son savon pour suivre mon exemple. Quel sera notre sort ? Demain matin, nous arriverons dans cette oasis de Tchertchen que nous n'imaginons pas très bien. Il y aura du maïs, du coton et des mûriers sans doute, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait de grands arbres. Oasis, mot charmant, synonyme de repos et d'abondance, mais qui pour nous signifie inquiétude et de nouveaux dangers. Que nous réserve notre arrivée dans la première agglomération du Xinjiang ? Ne devrions-nous pas, à tout hasard, annoncer notre présence au consul anglais de Kashgar par un courrier avant d'être arrêté peut-être ? Nous risquons pour le moins de tomber entre les mains de Dungan subalternes qui peuvent nous emprisonner en attendant que leur parviennent des ordres concernant des étrangers. Mais par contre, si la situation est encore tendue et que la méfiance règne, n'ira-t-on pas jusqu'à croire que nos passeports européens sont forgés, que nous sommes des espions russes qui cherchent à dénombrer les forces Dungan ? Et si on m'adresse la parole en russe, faudra-t-il faire comme si je ne comprends pas ? À vrai dire, un couple doit éveiller moins de soupçons qu'un homme seul, car un espion s'encombre rarement d'une femme, et ma présence va peut-être jouer un rôle capital dans le sort qui nous est réservé. Si notre voyage au Xinjiang semble par trop inexplicable, je dirais que j'habite à Lanzhou et que mon père très malade m'attend à Kashgar. J'aurais donc pris le plus court chemin pour m'y rendre. Peter suppose que sa qualité d'anglais n'est pas pour déplaire aux Dungan qui, ennemis des Chinois et des Russes, doivent se tourner avec un intérêt amical vers la Grande-Bretagne. Arrêté. Du haut d'une dune, debout dans le soleil couchant, Peter braquant des jumelles crie « Des peupliers !» comme un marin saluerait la terre. Au loin, la cime élancée des arbres émerge d'une masse de verdure bleutée par la brume du soir. Il est trop tard pour arriver aujourd'hui et nous campons parmi les tamaris au bord du Tchertchen Daria. Le lendemain, 15 juin, il y a 4 mois que nous avons quitté Pékin, nous traversons le bras du fleuve à l'eau blonde. Je vois des moutons dans les roseaux, puis isolé au bord du canal, un saule dont je ne peux m'empêcher de toucher le tronc. Madame Barr, un homme barbu, d'un coup de bêche, ouvre le passage dans une digue par où l'eau envahit son champ de maïs. De tous côtés, les coqs chantent. Nous allons avoir des œufs. Un coucou répond. Que de merveille. Dans l'ombre dense d'un chemin creux qui sent le chèvrefeuille, un bruit étrange m'étonne à chaque instant. C'est la puissante symphonie des milliers de feuilles dans le vent infatigable, et je sens là-haut, vibrant du bois vivace y réfléchi par la cime, pour et contre les dieux ramer l'arbre unanime. Ce sont deux vers qui sont inclus dans cette phrase. Voici des murs de terre, à l'ombre des branches, et Tusun nous fait entrer dans une cour. La pouliche pointe ses oreilles, effrayée de franchir la première porte de sa vie. Nous sommes chez des amis qui nous offrent du mine. Les femmes m'entourent et lorsqu'elles ont compris, enfin, à quel sexe j'appartiens sous mon hâle et mes pantalons, elles me demandent de la crème pour embellir leur visage. Tousoun m'apporte une énorme rose et lourde de sève cueillie dans le potager voisin. J'ai les larmes aux yeux. La fatigue aidant, qui sait, de voir que le monde sait produire tant de beauté. Notre Aksakal habite à 1 heure d'ici. Je repars perché sur un âne cette fois, car une personne de qualité ne saurait aller à pied. Et Peter, chef d'expédition, doit monter son cheval. À l'instant où nous traversons un grand champ, où pèsent des chameaux, nous voyons poindre 2 officiers qui galopent. À un battement de cœur, je sais que c'est à nous qu'ils en veulent. Ce sont 2 Chinois, à ce qu'il semble, et le soleil dentelé du Kuomintang orne leurs casquettes. Mais avant tout, les bêtes qu'ils montent m'hypnotisent. Ce sont d'énormes chevaux, 2 fois plus hauts que notre pouliche, au cou trapu, gras comme des baleines sur leur pelage luisant, et comme j'avais oublié qu'il en pût exister. 2 officiers demandent nos armes, puis font changer de direction aux chameaux, tandis que Tousoun leur jette un regard sombre. Peter résume la situation en disant « Nous pouvons nous considérer comme arrêtés. » Chapitre 6. Célébrité à Tcherchen. Un sourire de commande aux lèvres, nous suivons les 2 cavaliers qui nous ont fait passer par le centre du village. Dans la grande rue ombragée de treillis de paille, la population turque nous regarde bouche bée et bientôt nous entrons dans la cour couverte d'une maison abandonnée. Une foule de plus en plus dense nous examine en murmurant « Oros !» Il nous croit russe et il est clair que nous affirmons « Oros Tjok, English !» soulève les doutes. Dans l'étable, à baudet trop petite pour eux, la perle du Tsedam et son compagnon soudain démesuré juge la situation avec des mines outragées. On emporte nos passeports. Assis sur nos valises, nous feignons jouir de notre repos, mais nous sommes anxieux. Nous ne trouvons pas dans un caravansérail, car nous avons beau commander du thé, rien ne nous est servi. Cette maison deviendra peut-être notre prison si tel est le désir des rebelles dont nous dépendons. Espérons que les autorités verront d'abord mon passeport pékinois, puisqu'il est le seul à porter une mention du Xinjiang. La foule s'écarte pour laisser un jeune homme passer au type iranien. C'est Abd Rahman, l'homme de confiance de l'Aksal britannique, et les badauds s'attendent à ce que la conversation s'engage, puisque Peter et lui sont tous 2 des English. On voit avec suspicion que seuls nos sourires silencieux répondent aux questions posées en hindoustani ou même en persan. Enfin, après une attente interminable, nos papiers nous sont rendus ornés d'un coup de tampon. Pour l'instant, tout danger est écarté. Quel soulagement! Comme par magie, un tapis est déplié, thé, galettes et sucre sont servis, tandis que l'Aksakal entre en scène. Maintien noble, barbe blanche, lèvres épaisses, peau foncée d'Indien, il vient nous inviter à loger chez lui. De même que ses rares compatriotes, il porte sur son habit un drapeau anglais, signe distinctif qu'il le protégeait si une rébellion venait encore à éclater. Il ne sait pas l'anglais. À sa suite, nous traversons l'oasis, faisant fuir les femmes de la campagne qui cachent leur visage sous un pan de leur voile blanc. Seules les dames de la bourgeoisie turquie sortent avec la figure protégée par le treillis de crin ou de dentelle. Quant aux hommes, ils se lèvent pour nous faire un salam, main jointe sur la poitrine, et ceux qui sont à cheval s'empressent de mettre pied à terre en signe de respect. Dans les branches, au-dessus de nos têtes, les abricots sont mûrs et je savoure mon premier fruit de l'année. Vêtus de cotonnades blanches, les paysans, par groupe, sarclent les champs de maïs, une rose parfois passée au-dessus de l'oreille, tandis que 2 d'entre eux font de la musique sur un tambourin et une viole. Plus loin, dans une cour à l'ombre d'un grand arbre, un mourant est étendu sur le tapis d'un divan. Agenouillé autour de lui en silence, sa famille l'évente et le regarde une dernière fois. Le cimetière est tout voisin, avec ses tombes entourées d'une palissade de bois et surmontée d'une queue de cheval. Confort chez l'Axacal. Sous un toit, à nouveau, pendant les 5 jours que nous fûmes les hôtes de l'Axacal, malgré de grandes fenêtres, je manquais d'air à chaque instant. Dans un décor de motifs floraux à la persane, nous habitions une chambre de réception aux épais tapis modernes sur lequel nous dormions et mangions. À la grande joie de Peter, Abd Rahman nous apporta une table pliante sur laquelle put trôner la machine à écrire devant laquelle nos visiteurs allaient s'extasier. Afin d'aviser de notre arrivée son chef, le consul de Kashgar, l'Axal, allait faire partir un courrier. J'en profitais pour écrire à la maison une lettre rassurante qui n'arriva jamais. Par suite de la rapidité avec laquelle Peter aime à voyager, nous devions parvenir à Kashgar avant la missive, nous y annonçons. Chaque jour, l'Axacal lui-même nous servait nos repas. Riz au gras, poulet, œufs, lait, thé très sucré, friandises et piles de grandes galettes souples dont nous nous bourrions sans honte. Un jour au dessert, l'Axacal nous fit honneur de nous montrer son or. Chaque année, il envoie 2 hommes dans l'Altintag pendant la belle saison et il fait fondre en lingots la poudre d'or qu'il rapporte. Et là, dans sa petite balance, nous nous amusions à comparer notre plaquette d'or au plus petit fragment de sa richesse. Puis, notre hôte nous présenta sa femme, dont le visage ne m'eût pas surpris le moins du monde si je l'avais vue à Paris, en face de moi. D'un certain âge déjà, c'était une Turque morose, inapte à converser avec moi en langage petit nègre. Un défilé ininterrompu de visites passait dans notre salon. Ayant laissé notre soc dans l'antichambre, elle s'agenouillait en demi-cercle autour de nous et nous posait 1000 questions auxquelles nous ne comprenons rien, tandis que les bols de thé passaient de l'un à l'autre et que nous nous efforcions de deviner ce qu'on disait. D'un groupe de charmants vieillards enturbanés et vêtus d'amples kalats, nous apprenions que les Russes, maîtres de la capitale du Xinjiang, sont mauvais, tandis que les Anglais, qui règnent aux Indes, sont doués et de toutes les qualités. Au cours de notre voyage, dans des régions désolées, Tchertchène était peu à peu devenue, pour nous, synonyme de civilisation, mais nous ne tardâmes pas à nous rendre compte que dans un pays sans télégraphe et sans poste, à 2 mois des Indes, c'était de nous, au contraire, qu'on espérait apprendre les dernières nouvelles du monde. D'ailleurs, ceux qui nous entouraient avaient peine à comprendre d'où nous arrivions, et quand nous nommions les monts d'Altintag, on nous regardait comme si nous étions tombés de la lune. Mais tout le monde se levait car une visite d'importance était annoncée. C'était le Solig précédé par une sonnerie de trompettes de ses gardes du corps. Et selon Peter, qui était sorti pour le recevoir, une mitrailleuse sur un cheval avait même ajouté au décorum de son arrivée. Ce général nous apportait en un présent une poule, des œufs et un mouton. C'était un petit Dungan à la bouche cynique, dont le visage imberbe et très chinois brillait de vivacité. Il voit sans peine par où nous sommes descendus du Tsedam et comprend bien le charabia chinois de Peter. Le Soling a fait la campagne fabuleuse du Turkestan avec Ma Jun Ying et comme nous informons de ce qu'est devenu ce héros, il répond sans sourciller. Ma Jun Ying est en Angleterre pour acheter des avions. Cette assertion peu probable revient à dire « parlons d'autre chose ». Et le petit général en vient alors au principal objet de sa visite. Il souffre beaucoup à l'aine depuis quelques mois, ayant à peine à monter à cheval, et l'une de mes pommades le soulagerait peut-être. Avec une simplicité d'enfant devant sa mère, il me montre une glande énorme, protégée par un tampon de coton brut, cueilli sans doute le jour même dans un champ. Je lui donne de l'iodoforme, confesse mon ignorance et me défends une fois de plus d'être un de ceux qui savent regarder les maladies, mais c'est avec empressement que je désinfecte les furoncles et les abcès des soldats qui me le présentent. J'appris plus tard que mon patient n'était autre que Mayin Bio, qui, sous le surnom du petit Jiang Yang, colonel, jouit d'une réputation peu enviable. En 1932, à la tête de plusieurs milliers d'hommes, il extermina de nombreux villages chinois du Gansu. Puis sous les ordres de Ma Dianlin, il commanda l'oasis de Barkul au Xinjiang, et en février 34, c'est lui qui escorta Sven Hedin jusqu'à Turfan alors que cet explorateur était tombé au milieu de la guerre civile. Cours des miracles. À peine le Solik parti, l'Aksakal me prit de recevoir quelques malades venus de loin. Dans le pays, on se souvenait sans doute de la dernière expédition anglaise dont le chef était un docteur merveilleux qui voyageait avec 40 chameaux. Cet homme, qui savait toutes les langues, se nommait Itzin Sahib et nous découvrir que c'était le nom donné à l'archéologue Orelstein. Voyant la foule de Turquie de toutes conditions qui attend derrière la porte, mon interprète Peter prend la direction des opérations. J'ai à côté de moi une cuvette de permanganate, du talc, de la vaseline, de l'iode, des bandes, des onguents, de la quinine, sans oublier l'huile de ricin et les succourables Jinton Pills. À chaque patient qui entre, Peter pose les mêmes questions. Où avez-vous mal? Depuis combien de temps? Mangez-vous bien? Avez-vous grand chaud? Grand froid? Parfois, les malades sont rapidement évacués. L'un dit qu'il a mal chaque fois qu'il mange des aliments chauds. Mangez froid, lui ordonne Peter, tout en faisant signe au malade suivant. La plupart du temps, les questions sont inutiles. Sous leur calotte d'agneau, des enfants ont le crâne couvert de croûtes, une femme n'a plus de palais, une autre plus de nez, une troisième qui était tombée dans le feu soulève son voile de crin, montre un visage horrible où les paupières sanguinolentes pendent jusqu'au milieu des joues. Sous un pantalon raidi, par le pu, un homme me montre sa hanche dévorée par un ulcère. Peter s'impatiente et je ne comprends pas pourquoi, j'hésite à recommander tel traitement ou tel autre, puisque je suis impuissante devant ces maux d'origine tuberculeuse ou syphilitique. Jour après jour, le même défilé recommençait, quoique j'eusse répété sans cesse que je n'étais pas docteur. Comme une traînée de poudre, la nouvelle s'était répandue dans chaque cabane qu'une étrangère était arrivée avec des médecines. Aussitôt, chez ces êtres souffrants et jusque-là résignés sans doute, un espoir était né. Mais je ne pouvais qu'éteindre cette lueur suppliante dans leurs yeux. Une mère s'en retournant, portant sa fillette diphtérique, dont la bouche purulente laissait échapper des râles et dans le ventre tombait sur les cuisses squelettiques. Une jeune fille repartait sur une civière, ses jambes étaient énormes et la peau transparente de ses chevilles gonflées d'eau semblait être un ballon de Bauduruche prêt à éclater. Mais surtout, je me rappellerai cet homme dans la force de l'âge qui souleva son turban. Là, des chairs rongées et rose laissait voir à nu le tissu spongieux de son os crânien verdâtre qui évoquait un macabre nid d'abeilles. Je dus condamner ma porte. Je n'en pouvais plus. Et je voulais à la fois me reposer, mettre mes notes à jour, renouveler nos provisions au village et me faire un vêtement léger pour la brûlante traversée du Taklamakan qui nous séparait de Koh Tan. Visite à Tchertchen. Le marché de Tchertchen, que je m'étais réjoui de découvrir depuis tant de semaines, n'offre ni savon, ni mine, ni eau-de-vie, ni abricots secs. Sur la réunion poussiéreuse des échoppes, je ne vois que du sucre et des allumettes soviétiques, de la mousseline anglaise, de vieilles aiguilles autrichiennes et des pièces de soie indigènes. C'est tout. Mais la plupart des boutiques sont fermées, et qui sait si d'autres richesses n'apparaissent pas lors du marché hebdomadaire. Il nous faut voir les notables de la ville. Comme il se doit, allons d'abord chez le petit colonel. Il nous reçoit sur une estrade ombragée près d'un bassin d'eau profonde. Il accepte avec plaisir mes cartouches de revolver dont nous lui faisons présent. Il nous traite avec cérémonie et c'est grâce à un mot de lui transmis au maire que nous aurons les bêtes pour gagner Keria, la prochaine oasis à 12 jours d'ici. Il nous remet aussi une lettre d'introduction pour Ma Un San, le commandant en chef des forces d'Ungan à Koh Tan. Ces soldats sont tous coiffés d'un chapeau en piqué blanc, comme on porte chez nous les fillettes sur la plage. Au râtelier du poste de garde, un assemblage hétéroclite autant qu'international de vieilles carabines nous amuse et l'histoire de chacune d'elles fournirait à coup sûr les éléments d'un roman. À peine dans la rue à nouveau, Chinpan, un autre chef militaire métissé de Tibétain, est vêtu de ce qui ressemble à un pyjama de satin blanc, nous entraîne à visiter sa caserne très propre. Pour nous faire honneur, là comme toujours on sert le thé, on empile 6 morceaux de sucre russe dans notre bol et on nous offre des cigarettes russes. Puis, c'est un marchand de tapis qui nous invite dans la cour fraîche de sa maison chinoise. Il nous raconte qu'un jeune étranger blond passa par Tchertchen il y a 1 an, mais que suspect, il a été refoulé sous escorte vers le Kansu. Il ne savait pas plus de chinois que nous, néanmoins, on a appris qu'il arrivait de Koh Tan et on ne lui avait pas permis de prendre la route des Indes. Qui était donc ce pauvre garçon dont le sort ressemblait tant à celui que nous avions craint pour nous-mêmes? Nous apprenons aussi qu'à Tchertchen, les Dungan réquisitionnent les bêtes de somme, et c'est pourquoi personne ne veut acheter nos chameaux. Or, une ambassade envoyée par Mapu Fang à Koh Tan vient de critiquer si sévèrement ce système d'exaction que les délégués se sont vus mettre au secret en attendant qu'ils retournent chez eux à Sining. La dynastie des Ma de Sining, sous les ordres de laquelle Ma Junling se trouvait encore il y a quelques années, s'octroyait donc un droit de regard dans les affaires Dungan du Xinjiang, quoiqu'il fallût pour cela braver le désert de Lop Nor sur la piste suivie jadis par Marco Polo. Ainsi, les Dungan déclarés rebelles par Nankin n'étaient pas totalement isolés du reste du monde, et qui sait si en cas de guerre ils n'allaient pas être secondés par des co-religionnaires du Kansu? Mais leur chef, le terrible Ma Junlin, est bien loin d'ici, à Moscou selon notre hôte, qui aurait vu une photo de lui dans cette capitale. On disait aussi qu'un messager lui avait été envoyé là-bas et ses renseignements intéressants aiguisaient notre désir de comprendre ce qui se passait au Turkestan chinois. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, Ella et Peter vont partir au travers du désert Taklamakan. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à demain, 14h, sur les ondes de Campus Grenoble 90.8 ou sur le player de Radio Campus France. À très vite.
Oasis interdites par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement.